VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Claire Morin-Gibour avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. En Guinée, la junte met à la retraite plus de 40 généraux. De nouveaux combats ont eu lieu dans la région Afar en Éthiopie. 7 morts dans l'éboulement d'une mine artisanale au sud Kivu en RDC. Ici aux États-Unis, le Congrès repousse la menace d'un défaut de paiement jusqu'en décembre. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Les militaires au pouvoir en Guinée ont mis à la retraite plus de 40 généraux, dont plusieurs ont exercé des responsabilités sous le président Alpha Condé, qui a été renversé le 5 septembre dernier. Jacques Aristide.
C'est donc la grande purge venue par le biais d'un décret de la junte dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. 42 généraux et 2 amiraux sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Aucune explication n'a été donnée. Plus de 25 de ces ex-dignitaires sont nommés membres du Conseil supérieur de la défense, une institution consultative sur les problèmes de sécurité nationale, selon un autre décret également lu hier soir à la télévision public. Parmi les généraux mis à la retraite figure le général Sékouba Konaté, ancien président de la transition de 2010 ayant conduit à l'élection d'Alpha Condé la même année. Y figurent aussi d'anciens hauts responsables durant la présidence d'Alpha Condé, le général Namori Traoré, ancien chef d'état-major général des armées, le général Ibrahima Baldé, ancien chef de la gendarmerie nationale, le général Bourema Condé, ancien ministre de l'administration du territoire, et le général Rémi Lama, qui était ministre de la Santé. Également mis à la retraite, plusieurs chefs de différents corps d'armée, terre, air, mer, gendarmerie, de même que leurs adjoints. Ces changements dans l'armée interviennent une semaine après la nomination de Mohamed Béavogui au poste de premier ministre de transition. Depuis le putsch du mois dernier, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a prêté serment comme président de transition, a promis de rassembler les Guinéens au-delà des appartenances politiques ou ethniques.
Nous reviendrons sur la Guinée dans la partie magazine avec notre correspondant sur place, Zakaria Camara. En Côte d'Ivoire, un militaire et un agent des eaux et forêts sont morts dans une attaque contre un poste de sécurité près de Guéibli, dans l'ouest. L'identité et les motivations des assaillants ne sont pas connues. La Côte d'Ivoire a connu récemment plusieurs attaques de djihadistes présumés dans le nord-est du pays, à la frontière avec le Burkina Faso, à plus de 600 km de la localité de Guéibli. L'accalmie n'aura duré qu'un mois dans la région éthiopienne de l'Afar. Les combats ont repris dans cette région proche du Tigré alors que l'armée gouvernementale a lancé une nouvelle offensive. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le conflit au Tigré s'est propagé ces derniers mois aux régions voisines de l'Afar et de l'Amara. Il a commencé il y a près d'un an lorsque le premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale pour chasser les autorités régionales dissidentes. Selon des sources humanitaires, mardi, les affrontements dans la ville Afar se sont soldés par la mort de nombreux civils. Ces sources font état de l'usage d'armes lourdes par le Front de libération du peuple du Tigré. Ces informations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante et les responsables de la région Afar n'étaient pas joignables. Getachew Reda, le porte-parole du TPLF, a nié que les rebelles aient utilisé des armes lourdes contre les civils et qualifié ces informations d'accusations destinées à ternir la réputation de nos forces. Il a en revanche confirmé les combats en région Afar. Depuis près d'une semaine, des sources rebelles et humanitaires rapportent les signes d'une nouvelle offensive de l'armée fédérale qui pourrait marquer une nouvelle étape dans ce conflit qui a plongé des centaines de milliers de personnes dans la famine selon l'ONU. Mardi, les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont appelé les parties à cesser immédiatement les exactions et à entamer des négociations pour un cessez-le-feu.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, 7 mineurs sont morts et 5 sont portés disparus dans l'éboulement d'une mine d'or artisanale dans la province du Sud Kivu. Les précisions de Mohamedou Mfa.
L'incident est survenu lundi sur le site minier de Lukamba dans le territoire de Chabunda, selon Cyril Lualuba Bendera, président de la société civile locale. un incident causé par une pluie diluvienne qui s'est abattue sur la région, surprenant les creuseurs artisanaux alors qu'ils étaient dans un trou d'au moins 6 mètres de profondeur, selon lui. Sur les 13 personnes qui s'y trouvaient, 7 sont mortes, 500 portées disparues et un seul a été retrouvé vivant, mais grièvement blessé. Il a été transporté dans un centre hospitalier. Les 7 creuseurs décédés ont été enterrés sur le lieu de l'accident le même lundi. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les 5 autres, morts ou vivants, a indiqué M. Loualouba. Les autorités provinciales du site Kivu se sont abstenues de commenter cet accident, dont elles affirment néanmoins être au courant. De tels accidents dans les mines exploitées par des creuseurs artisanaux sont fréquents en RDC et sont souvent très meurtriers, mais largement sous-documentés compte tenu des endroits extrêmement enclavés où ils se produisent.
Toujours en RDC, au moins 5 personnes sont mortes brûlées hier dans la collision entre un bus et un camion transportant de l'acide destiné au traitement des minerais à hauteur de la cité minière de Kawama, à 12 km de Lubumbashi, sur une route stratégique et très fréquentée qui relie les provinces minières de Lualaba et du Haut-Katanga. Au Congo-Brazzaville, les autorités ont annoncé ce mercredi l'interdiction de toutes les cérémonies de mariage dans le pays pendant 45 jours en vue de stopper la propagation de l'épidémie de Covid-19. Les cérémonies de mariage civil religieux, de mariage coutumier et de dot sont suspendues pour une durée de 45 jours, a déclaré le ministre de la Communication Thierry Mungala à la télévision publique. Le Congo-Brazzaville est confronté à une troisième vague. En déplacement au Gabon, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a affirmé ce mercredi à Libreville que la justice de son pays n'avait reçu aucune plainte visant des casques bleus gabonais accusés par l'ONU d'exploitation et d'abus sexuels sur 5 filles. Le gouvernement centrafricain a demandé aux Nations Unies à être dorénavant impliquées dans les enquêtes. Le 15 septembre, les Nations Unies ont ordonné le retrait de quelques 450 casques bleus gabonais après des accusations d'abus sexuels. En Algérie, le tribunal administratif d'Alger a prononcé la dissolution du Rassemblement Action Jeunesse, une ONG phare du mouvement pro-démocratie Irak. Une décision scandaleuse et une attaque contre les acquis démocratiques du peuple algérien, a déploré Saïd Sali, le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. En Égypte, un tribunal militaire a confirmé la condamnation à perpétuité de 32 personnes accusées d'avoir planifié une tentative d'assassinat du président Abdel Fattah al-Sissi et d'un ex-prince héritier saoudien en 2014. Monsieur Sissi effectuait alors un pèlerinage à la Mecque, ainsi que Mohamed Ben Naïef, alors prince héritier saoudien, qui avait également été visé par la même tentative d'assassinat, selon des comptes rendus du parquet.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le Congrès a accepté mardi de relever temporairement le plafond de la dette jusqu'à la fin de l'année. C'est un répit avant une nouvelle bataille politique qui s'annonce féroce pour éviter un défaut de paiement à la première puissance économique du monde. Les précisions de John Hinden.
Grâce au seul soutien des élus démocrates, 219 voix contre 206, toutes républicaines, la Chambre des représentants a adopté une mesure qui prévoit de relever la limite d'endettement des États-Unis de 480 milliards de dollars. Déjà approuvé par le Sénat la semaine dernière, ce texte sera transmis dans la foulée à Joe Biden, qui va le promulguer au plus vite, selon la Maison-Blanche. La présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, a lancé une mise en garde mardi. Si à terme, le plafond de la dette n'était pas relevé de manière plus durable, l'impact serait énorme et les États-Unis connaîtraient notamment une perte de 6 millions d'emplois. Un défaut de paiement provoquerait une onde de choc à travers les marchés financiers mondiaux, a-t-elle soutenu. Le relèvement du plafond de la dette devrait permettre aux États-Unis d'honorer ses paiements jusqu'en décembre, voire au tout début de 2022.
Toujours ici aux États-Unis, les réunions du G7 et G20 Finance ont lieu dans le cadre des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Les pénuries de produits au niveau mondial sont au cœur des discussions. Les problèmes d'approvisionnement provoqués par un surcroît de demandes de transport logistique avec la reprise post-pandémie combinée à des pénuries de main-d'œuvre a conduit le FMI à réviser en baisse les prévisions de croissance de plusieurs pays, dont les États-Unis, la Chine, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec John Linden.
Au Sénégal, le TER, le train express régional, entrera finalement en fonction le 24 décembre. Il avait été annoncé et reporté plusieurs fois. Dans un entretien relayé par les médias, Abdou Ndéné Sall, directeur général de Senter, indique que tout est presque achevé et au point. Le rendez-vous est donné aux Sénégalais le 24 décembre pour le cadeau de Noël. Ce train express régional est censé, selon Financial Afrique, pallier aux embouteillages qui coûtent à Dakar environ 100 milliards de francs CFA par an. L'Afrique subsaharienne devrait enregistrer une croissance économique de 3,7% en 2021, selon le FMI qui a rendu publique ses prévisions quelques jours après celles de la Banque mondiale, qui prévoit également une reprise économique après la récession de 2020. Selon l'agence Ecofin, seulement 4 pays de la région vont enregistrer une croissance supérieure ou égale à 6%. Il s'agit du Botswana, des Seychelles, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Les mineurs américains de Bitcoin qui permettent la validation des transactions et la création de la crypto-monnaie sont désormais les premiers producteurs au monde, alors que l'activité a complètement disparu en Chine. Selon une étude de l'Université de Cambridge, les nouvelles données qui courent jusqu'à fin août montrent que les États-Unis concentrent 35,4% de l'activité.
Maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le Sénégal et le Maroc sont les premiers pays africains qualifiés pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Afrique. Hier, lors de la 4e journée des éliminatoires, les Lions de la Teranga se sont imposés 3-1 devant la Namibie. Leur 4e victoire consécutive dans ces matchs de qualification. Ils totalisent donc 12 points. Ils sont sûrs de finir premier de leur groupe H. Devant le Togo, deuxième avec 4 points. Mission accomplie, mais attention, il y a toujours des choses à revoir, selon Babacar Ndaoufaye, rédacteur en chef du groupe Imedia que nous avons joint à Dakar, au Sénégal.
Sur le plan comptable, en tout cas, on ne va pas faire la fine bouche. Le Sénégal réussit tout de même à se qualifier 2 journées avant la fin de ce deuxième tour de qualification. Donc c'est déjà des points à prendre qui ont été pris. Et je pense que le Sénégal a tenu son rang. Maintenant, il y a encore des réglages à faire hein, sur le plan du jeu, sur le plan de l'organisation défensive. Il y a quand même eu beaucoup d'occasions qui ont été concédées face à des équipes qui sont supposées vraiment très faible par rapport au standing du Sénégal et surtout par rapport au style d'équipe que nous devrons rencontrer après la Coupe d'Afrique dans ce dernier tour de barrage.
Babacar Ndaoufaye, rédacteur en chef du groupe Imedia, joint à Dakar. Les Lions de l'Atlas joueront aussi les barrages. Le Maroc a dominé la Guinée 4-1 pour arracher sa 4e victoire de suite en autant de matchs et est certain de terminer premier du groupe I devant la Guinée-Bissau, 2e avec 4 points. L'Afrique du Sud s'est imposée devant l'Éthiopie et reprend donc la tête du groupe D devant le Ghana, vainqueur 1-0 du Zimbabwe. Le Niger est tombé à domicile devant l'Algérie 4-0. Le Togo a battu le Congo 2-1. Il reste encore 2 journées à disputer dans la zone Afrique, prévue pour le mois prochain. Pour rappel, 40 équipes réparties dans 10 groupes se disputent les 5 places réservées à l'Afrique au Mondial à Qatar 2022. Seuls les premiers de chaque poule seront retenus pour les matchs de barrage prévus en mars 2022. Cette triste nouvelle en athlétisme, la coureuse kényane Agnès Tirop a été retrouvée morte poignardée au niveau de l'abdomen à son domicile à Iten, célèbre centre d'entraînement en altitude de l'ouest du Kenya. deux fois médaille mondiale sur 10 000 mètres et quatrième des Jeux Olympiques de Tokyo sur 5 000 mètres. Tirop, 25 ans, est une étoile montante de l'athlétisme dans son pays. Elle venait de battre il y a un mois le record du monde du 10 km dans une course exclusivement féminine en 30 minutes 1 seconde en Allemagne. Le Kenya a perdu un diamant qui était l'une des athlètes à la progression la plus rapide sur la scène internationale, a déploré la Fédération kenyane d'athlétisme. Le président Uhuru Kenyatta a rendu hommage à la championne. Il est troublant, extrêmement malheureux et triste de perdre une athlète si prometteuse et si jeune, a déclaré le président Kenya.
Merci, Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
C'est l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. En Guinée, une quarantaine de généraux de l'armée ont été mis à la retraite par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition. L'annonce a été faite mardi soir par un décret lu à la télévision nationale. Le pays attend la formation du nouveau gouvernement de transition. Le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
Les Guinéens attendent la formation du gouvernement de la transition depuis la nomination du Premier ministre il y a quelques jours. Mais mardi soir, un décret du président de la transition annonce la mise à la retraite de 42 généraux de l'armée guinéenne. La nouvelle est commentée par Elage Oumarceau, ancien fonctionnaire de l'État.
Très bonne chose, parce que ces gens-là ont trempé dans toutes les violences qui ont servi et qui ont sévi dans ce pays. Franchement, je n'ai aucune pitié en ce qui les concerne. S'ils ont servi loyalement le pays, vraiment, on doit les mettre à la retraite conformément à la législation du travail.
28 des 42 généraux ont été nommés le même soir par le chef de la junte au Conseil supérieur de la défense. Normal, estime cet autre citoyen rencontré à Conakry.
Oui, c'est normal parce que c'est de vieux. En plus aussi, on doit prendre les nouvelles générations, mais toujours le vieux, là, on doit le laisser à côté. C'est nous passer tout le temps que conseiller. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Si on écarte tout le vieux aussi, on l'enlève complètement. On ne connaît pas ce qui va arriver.
Rien de grave dans cette décision de la junte au pouvoir en Guinée, estime à son tour Moussa Diomessi, sociologue, analyste, consultant.
Nous sommes dans un état d'exception. Donc aujourd'hui, à la fois il faut les mettre à la retraite, à la fois il ne faut pas les traiter pour service rendu à la nation, à la fois c'est de grands officiers donc qui ont connaissance. N'est-ce pas, des grands dossiers, on ne rejette pas un ancien militaire, un ancien haut dignitaire de l'armée. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, il est toujours intéressant et intelligent de les garder à côté en cas de besoin.
Parmi les 28 officiers nommés au Conseil supérieur de la défense, on peut noter les noms des anciens ministres de l'administration du territoire, de la santé, mais aussi celui de l'ancien gouverneur de Conakry, Zakaria Camara, pour VOA Afrique, Conakry.
Au Cameroun, selon les statistiques de la sécurité routière, 3275 personnes sont mortes des suites d'accidents de la circulation l'an dernier. Parmi les principales causes de ces accidents, il y a les excès de vitesse et le mauvais état des routes. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Les derniers drames sur les routes au Cameroun ont fait 40 morts en 24 heures entre le 4 et le 5 août dernier. Trois bus de transport en commun et trois camions ont été impliqués dans ces accidents survenus dans la périphérie de Yaoundé. Sur l'axe Yaoundé-Douala, entre la capitale politique et la capitale économique, 7 personnes ont trouvé la mort dans un accident en septembre dernier. Les usagers évoquent les causes de ces hécatombes.
Les conducteurs des gros engins, ils n'aiment jamais libérer la chaussée et lorsqu'ils accumulent 15-20 véhicules, arrivés là où il y a dépassement, tous les véhicules s'engagent sans se soucier de ce qui peut arriver en sens inverse. Nous n'avons pas de route dans notre pays. Si oui, les quelques routes qui existent sont aussi très mal entretenues.
Nous sommes tellement pressés à rouler. Nous tombons toujours sur des mauvais endroits, mauvais moments.
Il y a aussi l'état des véhicules. Et des fois aussi le chauffeur. Peut-être le chauffeur peut être fatigué.
D'après les résultats d'une étude commandée auprès du cabinet Simcom par le ministère des Transports et publiée en début d'année, l'état des véhicules a occasionné 17% des accidents de la circulation. La visite technique des véhicules est pourtant obligatoire au Cameroun. Ce document est-il fiable? Jules Célestin Duongzo, l'un des responsables de CATSIA, le principal centre de visite technique à Yaoundé.
Celui qui délivre la visite technique n'écrit pas au BIC. C'est une machine qui ressort l'état de ton véhicule pour éviter les fraudes. Si l'état du véhicule entre dans le taux de tolérance que la norme demande, on vous délivre la visite technique.
Les compagnies de transport impliquées dans les accidents de la route au mois d'août dernier ont été suspendues à titre conservatoire par le ministre des Transports. Ailleurs, les mesures de sécurité routière sont de plus en plus en vigueur au sein des compagnies. Francky Samé dirige à Yaoundé la compagnie Buka Voyage.
Nous avons donné des instructions très fermes à nos chauffeurs d'éviter de faire n'importe quoi, des mauvais dépassements. Nous respectons aussi les consignes des heures de conduite. Un chauffeur chez nous, il n'a pas droit à faire plus d'un aller-retour. Nous avons aussi, le plus récent, c'était l'acquisition des GPS.
Depuis fin février, le ministère des Transports a opté pour des radars semi-portatifs en vue de réduire les accidents de la circulation. Mais la répression tous azimuts n'a pas encore courbé les accidents à répétition dans ce pays. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2. La cote de popularité du président Joe Biden est en baisse dans les sondages. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer, notamment le départ chaotique de l'Afghanistan ou sa bataille pour la vaccination contre le Covid-19. Pour une explication de cette baisse de popularité du président américain, Jininiwa Kapumbu-Villa s'est entretenu avec Souleymane Béchir Diagne, directeur de l'Institut d'études africaines à Columbia University à New York.
Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que nous sommes toujours en contexte de Covid, de pandémie, et évidemment, il était normal que cela rejaillisse sur la cote de popularité du président Biden. Il y a eu à un moment donné l'espoir qu'on avait tourné la page de cette pandémie lorsque lui-même avait célébré le 4 juillet comme marquant de manière symbolique la fin de la pandémie. Là-dessus, le variant, le fameux variant Delta est arrivé avec une nouvelle vague qui a fait des dommages. Donc, c'est normal, depuis le président Trump, la cote de popularité des présidents repose énormément sur ce qui se passe avec la pandémie. Bon, il a pris les mesures qu'il fallait. L'obligation de vaccination qu'il a établie est bien reçu par une majorité de la population. Il y a, alors ça c'est le premier facteur, il y a un deuxième facteur qui est le programme qu'il avait promis autour de ces trois mots, Build Back Better. Et ce programme tient en deux grandes mesures législatives. Une première mesure qui a été votée, qui ne pose pas de problème et qui devrait pouvoir être votée par la Chambre. Une deuxième mesure plus importante en termes d'investissement et qui a une forte corrélation sociale. Le programme social de Joe Biden et des progressistes, ce qu'on appelle l'aile progressiste du Parti démocrate, véritablement, repose sur ce programme législatif. Et c'est à propos de ce programme législatif qu'il y a une division très nette parmi les démocrates. Et donc, il était également normal que la cote de popularité du président Biden souffre de cette division du Parti démocratique sur le montant de cette deuxième, de ce package, de ce paquet législatif qui est aujourd'hui devant le Congrès et qui a du mal à passer.
Pensez-vous qu'il puisse remonter dans les sondages et augmenter sa cote de popularité ?
Oui, la raison pour laquelle je le pense, c'est que justement, comme vous le voyez, les deux raisons que j'ai avancées comme étant les raisons fondamentales de sa baisse de popularité sont toutes les deux susceptibles de retournement. C'est-à-dire que la situation de la pandémie est en train de s'améliorer ces jours-ci. Il est probable que cette fois-ci, avec le niveau de vaccination qui a déjà été atteint, les choses vont aller véritablement mieux sans que l'on craigne trop un retour en arrière. Par conséquent, cette raison-là peut aller en sa faveur pour ce qui est de la remontée de sa cote de popularité. Deuxièmement, comme je l'ai dit, il y a déjà tout un paquet législatif qui ne devrait pas poser de problème de vote. Il suffira que les démocrates s'entendent sur le deuxième volet législatif, qui est bien plus important en termes de chiffres, évidemment, mais qui est également plus important en termes de mesures sociales. Si cette entente se fait, on pourrait voir mécaniquement la cote de popularité du président Biden remonter. On peut penser raisonnablement que cette baisse est purement conjoncturelle.
Souleyman Béchir Diagne, directeur de l'Institut d'études africaines à Columbia University à New York.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le procès Sankara, 34 ans après son assassinat. Ouvert lundi, avant d'être renvoyé au 25 octobre, il se déroule avec 12 des 14 accusés, avec l'absence remarquée de l'ex-président Blaise Compaoré, qui vit en Côte d'Ivoire, et Hyacinthe Kafondo, soupçonné d'avoir été à la tête du commando qui a tué Thomas Sankara en 1987. Quelle est l'importance du procès Sankara, plus de 3 décennies après sa mort? Que reste-t-il du projet et de l'idéologie de Sankara? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voafrique.com.
Les dirigeants des pays industrialisés du G20 promettent des milliards de dollars d'aide pour éviter une catastrophe humanitaire en Afghanistan. C'était lors d'un sommet virtuel organisé hier. Henri Ridgewell fait le point de Londres avec le récit de Jacques Aristide.
L'hiver approche à grands pas en Afghanistan. Les températures tombent. D'après les humanitaires, des millions d'habitants ont besoin d'une aide urgente. Salam al-Janabi est de l'UNICEF en Afghanistan.
Nous attendons à ce que environ 3 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë, dont un millier qui auront à lutter littéralement pour leur survie, faute d'un traitement contre la malnutrition aiguë sévère.
Selon l'ONU, l'Afghanistan a besoin de milliards de dollars pour sauver son économie et éviter une catastrophe. Les membres du G20 ont abordé la crise lors de leur sommet virtuel tenu en urgence. Mario Draghi, premier ministre italien et hôte de la réunion.
C'est la première fois que les dirigeants apportent une réponse multilatérale à la crise afghane. Un consensus a été trouvé sur la nécessité de ne pas laisser l'Afghanistan redevenir un repère pour les terroristes internationaux.
L'Union européenne a promis 1,2 milliard de dollars pour l'Afghanistan et les pays voisins. L'aide sera acheminée par l'intermédiaire d'organisations internationales travaillant sur le terrain. Les États-Unis, eux, ont d'ores et déjà promis 330 millions de dollars. Lors de la réunion du G20, le président Joe Biden a déclaré que l'argent ne devrait pas être alloué aux talibans. Pour la chancelière allemande Angela Merkel, il est hors de question de légitimer les talibans tant qu'ils privent les femmes et les filles de leurs droits fondamentaux.
Je l'ai dit très clairement, le gouvernement taliban n'est pas inclusif. C'est pourquoi la question de la reconnaissance des talibans n'est pas à l'ordre du jour. Néanmoins, il doit et devrait y avoir des pourparlers, comme c'est de plus en plus le cas en ce moment.
Pour leur part, les talibans appellent la communauté internationale à normaliser les relations. Amir Khan Moutaki est le ministre afghan des Affaires étrangères par intérim.
Toutes les options de force et de pression ont été utilisées, mais en vain. Nous devons désormais avoir recours aux options de négociation et de compréhension.
Pour les Afghans ordinaires, la vie est difficile. Il y a un manque cruel d'argent liquide. De nombreuses entreprises ont mis la clé sous le paillasson, entraînant des pertes d'emplois. Les salaires ne sont pas payés. Le prix des produits de base a fortement augmenté, résultat d'un sempiternel conflit et de graves sécheresse. De nouveau, Salam al-Janabi de l'UNICEF.
C'est désormais une question des vies ou des morts pour beaucoup de ces enfants qui souffrent de malnutrition sévère et aiguë. Nous, de la communauté humanitaire de l'UNICEF, espérons que l'aide humanitaire apportée aux familles, aux enfants et aux mères soit dépolitisée. Que nous examinions d'abord l'impératif humanitaire des besoins urgents de ces enfants d'abord, puis essayons de comprendre les systèmes et leur fonctionnement.
Les talibans et les gouvernements occidentaux tiennent des pourparlers au Qatar pour permettre à l'aide d'être acheminée en Afghanistan et pour laisser sortir les réfugiés du pays. Les dirigeants du G20, eux, doivent à nouveau se rencontrer, cette fois en personne, à Rome, à la fin du mois.
c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Lionel Gaïma et Georges-Léonard Sagno. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.